Je vais d'abord lire un verset dans la deuxième épître à Timothée, au chapitre 2. Verset 1er. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est dans le Christ Jésus. Et les choses que tu as entendues de moi devant plusieurs témoins, commets-les à des hommes fidèles, qui soient capables d'instruire aussi les autres. Un verset qui a souvent été relevé, en particulier parce qu'il nous parle à la fois de ce qui est un surfondement pour notre vie, la grâce qui est dans le Christ Jésus, et puis associé à cela une responsabilité de transmettre ce que nous avons reçu. Paul s'adresse à Timothée, qu'il appelle au début « mon enfant ». On a là, dans ce nom, l'idée de deux générations, un père, un enfant. Il y a ce que Timothée a entendu de Paul, en même temps que d'autres. Tu as entendu de moi devant plusieurs témoins. Il n'est pas le seul à avoir entendu ces choses. Il y a là un ensemble de personnes qui ont entendu ce que Paul a transmis, qu'il avait reçu du Seigneur. Et il y a cette responsabilité de le transmettre plus loin à des hommes fidèles qui eux-mêmes vont aussi avoir cette responsabilité, capables d'instruire aussi les autres. On a là quatre générations qui apparaissent, Paul, Timothée, ceux à qui Timothée doit transmettre ces choses, qui eux-mêmes devront le transmettre plus loin. Et alors je voudrais faire une espèce de diagonale à travers quelques rois dans le livre des Chroniques, où on peut deviner cette transmission à travers les chaos de la marche du peuple d'Israël. Commencer au chapitre, début du chapitre 26, de 2 Chroniques 26, tout au début. Tout le peuple de Juda prit Ozias, qui était âgé de 16 ans, et le fit roi à la place de son père Amatsia. Ce fut lui qui bâtit Éloth et la recouvra pour Juda après que le roi se fut endormi avec ses pères. Ozias était âgé de 16 ans lorsqu'il commença de régner. Il régna 52 ans à Jérusalem. Le nom de sa mère était Jécolia de Jérusalem. Et il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, selon tout ce qu'avait fait Amatsia son père. Il rechercha Dieu pendant les jours de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Et pendant les jours où il rechercha l'Éternel, le Dieu le fit prospérer. Suite toute une série de choses qui nous sont rapportées de ce que Ozias a fait pour Israël. Il nous est parlé au verset 7 que Dieu l'aida contre les Philistins. Et puis, plus loin, quand on arrive au chapitre, au verset 16, « Quand il fut devenu fort, son cœur s'éleva jusqu'à le perdre, et il pécha contre l'Éternel, son Dieu, et entra dans le temple de l'Éternel pour faire fumer l'encens sur l'autel de l'encens. Et Azaria, le sacrificateur, entra auprès de lui, et avec lui les sacrificateurs de l'Éternel, 80 hommes vaillants. Et ils s'opposèrent au roi Ozias, et lui dirent, ce n'est pas à toi, Ozias, de faire fumer l'encens à l'Éternel, mais aux sacrificateurs fils d'Aaron qui sont sanctifiés pour faire fumer l'encens. Sors du sanctuaire, car tu as péché, et cela ne sera pas à ta gloire de la part de l'Éternel Dieu. » Et Ozias s'emporta, et il avait en sa main un encensoir pour faire fumer l'encens, et comme il s'emportait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front devant les sacrificateurs dans la maison d'Éternel auprès de l'autel de l'encens. Et Azaria, le principal sacrificateur, et tous les sacrificateurs le regardèrent, et voici, il était lépreux au front. Et ils le chassèrent de là, Et lui aussi se hâta de sortir, car l'Éternel l'avait frappé. Et le roi Ozias fut lépreux jusqu'au jour de sa mort, et il habita lépreux dans une maison d'isolement, car il fut exclu de la maison de l'Éternel. Et Jotham, son fils, fut chef de la maison du roi, jugeant le peuple du pays. Et le reste des actes d'Ozias, les premiers et les derniers, Esaïe, fils d'Amoth, le prophète, les a écrits. Et Ozias s'endormit avec ses pères et l'enterra auprès de ses pères dans le champ de la sépulture des rois, car on dit il est lépreux. Et Jotham, son fils, régna à sa place. Jotham était âgé de 25 ans lorsqu'il commença de régner. Il régna 16 ans à Jérusalem, et le nom de sa mère était Jerusha, fille de Tsadok. Il fit ce qui est droit aux yeux d'Éternel, selon tout ce qu'avait fait Ozias son père. Seulement, il n'entra pas dans le temple de l'Éternel, et le peuple se corrompait encore. Verset 7, le reste des actes de Jotham et toutes ses guerres et ses voies, voici ces choses sont écrites dans le livre des rois d'Israël et de Juda. Il était âgé de 25 ans quand il commença de régner, il régna 16 ans à Jérusalem, et Jotham s'endormit avec ses pères, et on l'enterra dans la ville de David, et Akaz, son fils, régna à sa place. Jusque-là, pour le moment. Rapidement, concernant Ozias, on a une illustration solennelle d'un chemin qui commence, si on peut dire bien, qui commence avec l'Éternel, avec une marche manifestement pieuse, il nous est dit de recherche à Dieu, avec là la présence de Zacharie qui avait l'intelligence des visions de Dieu, quelqu'un qui était pour lui une aide. Et verset 5 au milieu, « Pendant les jours où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Tant qu'il se tenait près de l'Éternel, recherchant l'Éternel, donc avec une conscience d'un besoin d'être dirigé, d'être guidé, besoin d'une sagesse qui ne pouvait pas venir de lui, l'Éternel a été fidèle et l'a conduit et l'a fait prospérer. Si on regarde dans le détail ce qu'il nous est dit après, des choses qu'il a faites, on voit qu'il a fait beaucoup pour Jérusalem, pour le peuple, pour le pays, aussi bien pour la prospérité en temps de paix que pour armer, préparer le peuple pour des temps plus difficiles et être capable de se défendre et de protéger le peuple. Verset 15 à la fin, il nous est dit « Son renom s'étendit au loin, car il fut merveilleusement aidé jusqu'à ce qu'il devint fort. » Et il y a ce moment où il est devenu fort et où il nous est dit, on l'a lu, « Son cœur s'éleva jusqu'à le perdre. » Il était roi, il avait le pouvoir, l'autorité royale, descendance de David. Et un peu à l'image des fils de Corée, il a voulu autre chose. On peut remarquer que David, qui a été oint comme roi, et comme roi uniquement, a mis en place toute une partie de l'organisation de la sacrificature, selon les instructions de Dieu. On retrouve ça dans le premier livre des Chroniques, les classes de sacrificateurs, le fonctionnement de ces classes de sacrificateurs, les rotations du service au temple, par famille, par maison de père. Ces choses-là, David les a mis en place, instruits par Dieu. Mais la fonction du sacrificateur et la fonction du roi étaient bien distinctes. Alors que nous retrouvons ces deux fonctions unies dans la personne du Seigneur. Il est le Messie, loin de Dieu, à l'image de David qui avait été loin par Samuel. Et il est sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, en même temps. Mais ces deux fonctions en une personne sont réservées au Seigneur lui-même. Ozias Il a voulu faire ce qui était réservé au sacrificateur. Entrer dans le temple, offrir l'encens sur l'autel de l'encens. Et là, il est remarquable, et ça tranche dans ce livre des chroniques, quand on parcourt ce livre des chroniques, et encore plus si on compare avec le livre des rois, où on a l'histoire d'Israël qui est toujours mis en regard. On a là Azaria, le sacrificateur, le souverain sacrificateur, et avec lui les sacrificateurs d'Éternel, 80 hommes vaillants, une unité de ces Lévites, de ces Kéatites, pour les droits de l'Éternel. Et qui reprennent, c'est solennel de voir cette phrase, verset 18, « Ils s'opposèrent au roi Ozias. » Ils s'opposèrent au roi Ozias. En lui rappelant les instructions de la parole. Simplement. Ce n'est pas à toi, Ozias, de faire fumer l'encens à l'Éternel, mais aux sacrificateurs fils d'Aaron, qui sont sanctifiés, mis à part, pour faire fumer l'encens. Sors du sanctuaire. Solennel. Les sacrificateurs qui sont là et qui ordonnent au roi de sortir, qui s'opposent à lui. Quand il fut devenu fort, son cœur s'éleva jusqu'à le perdre. L'orgueil. L'orgueil que il avait réussi en beaucoup de choses. Il était devenu fort. Son renom s'était étendu au loin. Il nous a parlé de tout ce qu'il a fait avant. On ne va pas s'arrêter là-dessus, parce que je voudrais voir plus loin. Mais tout cela l'a amené à cet orgueil et à vouloir prétendre à la fonction de sacrificateur. La fidélité de ces sacrificateurs marque le coup d'arrêt, et d'une manière solennelle. Parce que devant cette répréhension, Ozias s'emporte et Dieu intervient. On voit plusieurs occasions dans le livre d'Exode, dans le livre des Nombres, où le peuple murmure, où le peuple conteste l'autorité de Moïse. Et on peut parcourir ça à travers ces livres de Moïse. On voit à chaque fois, à plusieurs reprises, il nous est dit, la gloire de l'Éternel apparut dans la nuée. Dieu se montre dans sa gloire devant le peuple pour justifier l'action de Moïse et d'Aaron. Et pour manifester sa gloire devant ceux qui s'opposent à lui. Là, il ne nous est pas dit que l'Éternel se manifeste dans sa gloire. C'est à l'intérieur du temple. C'est une affaire qui concerne un seul homme, Ozias. C'est Ozias directement, lui, qui est jugé par cette lèpre qui éclate sur son front. La lèpre chassée hors du camp. Il était roi, il a été, il nous est parlé, il fut dans une maison d'isolement, exclu de la maison de l'Éternel. Exclu de toute action publique, exclu de sa fonction de roi. Et à la place, Jotham, son fils, assure une régence. Il fut chef de la maison du roi, jugeant le peuple du pays. On peut se rappeler que Ésaïe 6, il nous est dit, l'année de la mort du roi Ozias. L'Éternel apparaît à Ésaïe, dans sa grandeur. Plus loin, on voit que, quand ce qui concerne le règne de Jotham, on a lu, où est-ce que c'était, le peuple se corrompait encore. Encore. Ce qui veut dire que, même du temps d'Ozias, le peuple ne suivait pas, même dans le temps de l'obéissance d'Ozias, le peuple dans son ensemble, dans son intégralité, ne suivait pas cette piété-là. Et si on parcourt ce livre des chroniques et puis les prophètes associés, on voit bien que il y a au fond eu en tout temps, dans toute l'histoire du peuple d'Israël, une partie plus ou moins grande qui se détournait de l'Éternel, qui allait après d'autres dieux. En secret ou ouvertement, selon ce que le roi tenait ou faisait dans le pays, ce qu'il imposait, ce qu'il montrait comme exemple. Alors Jotham, si on prend la succession et qu'on se met à sa place, une place difficile. Un père qui a été fidèle, qui a fait de grandes choses, c'est toujours difficile de succéder à un roi qui a fait de grandes choses, mais qui a terminé sa vie de cette manière-là et dont il a fallu prendre la succession de son vivant, une régence, avec un exemple solennel du jugement qui est tombé sur lui. Et il nous est dit, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, selon tout ce qu'avait fait Ozias son père. Et il nous est précisé, seulement il n'entra pas dans le temple de l'Éternel. C'est un côté. Il a appris les leçons. Il a peut-être été profondément marqué par ce qu'a fait son père et les conséquences. Et il en a tiré les leçons. Mais l'autre côté, la phrase continue avec ce que je relevais tout à l'heure, le peuple se corrompait encore. Et y a-t-il eu chez Jotham un manque de courage, d'énergie, de dépendance, de foi pour s'occuper de cette corruption qui était au milieu du peuple? La parole ne nous en dit pas plus, là. Mais une marche individuelle dans la piété, mais une marche un peu, si on peut dire, en retrait. Et alors, si on continue, verset chapitre 28. Achaz était âgé de 20 ans lorsqu'il commença de régner. Il régna 16 ans à Jérusalem. Et il ne fit pas ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, comme avait fait David son père. Mais il marcha dans les voies des rois d'Israël, et même il fit des images de fonte pour les Baals. Et il fut fumé de l'encens dans la vallée des fils de Hinnon, et brûla ses fils par le feu, selon les abominations des nations que l'Éternel avait dépossédées devant les fils d'Israël. Etc. Je ne vais pas lire la suite. On a quelque chose de solennel. On va lire juste une partie. Si, il faut quand même qu'on lise là, verset 4, qu'on continue. Il sacrifiait et faisait fumer de l'encens sur les hauts lieux et sur les collines et sous tout arbre vert. Et l'Éternel, son Dieu, le livra en la main du roi de Syrie. Et les Syriens le frappèrent et lui prirent un grand nombre de captifs et les emmenèrent à Damas. Et il fut aussi livré en la main du roi d'Israël qui lui infligea une grande défaite. Verset 8. Et les fils d'Israël emmenèrent d'entre leurs frères 200 000 captifs, femmes, fils, filles. Ils leur enlèvèrent aussi un grand butin et amenèrent le butin à Samarie. Il y avait là un prophète de l'Éternel nommé Oded, et il sortit au devant de l'armée qui revenait à Samarie, et leur dit, « Voici dans son courroux contre ceux de Juda, l'Éternel, le Dieu de vos pères, les a livrés entre vos mains, et vous les avez tués avec une rage qui est parvenue jusqu'aux cieux. Et maintenant vous pensez vous assujettir comme serviteurs et servantes les fils de Juda et de Jérusalem. N'avez-vous pas avec vous, ne concertant que vous, des péchés contre l'Éternel, votre Dieu? Et maintenant, écoutez-moi, envoyez les captifs que vous avez emmenés captifs d'entre vos frères, car l'ardeur de la colère de l'Éternel est sur vous. Et des hommes d'entre les chefs des fils d'Éphraïm, Azaria, fils de Jocanan, Berechia, fils de Meshilemoth, et Ézéchias, fils de Shalem, et Amasa, fils de Hadaï, se levèrent contre ceux qui venaient de l'armée et leur dirent, vous ne ferez point entrer ici les captifs, car pour notre culpabilité devant l'Éternel, vous pensez ajouter à nos péchés et à nos crimes. Car notre crime est grand, l'ardeur de la colère est sur Israël. Et des gens armés abandonnèrent les captifs et le butin devant les chefs et devant toute la congrégation. Et les hommes qui avaient été nommés par leur nom se levèrent et prirent les captifs et vêtirent du butin tous ceux d'entre eux qui étaient nus. Et les vêtirent et les chaussèrent, leur donnèrent à manger, à boire, les oignirent et conduisirent sur des ânes tous ceux qui étaient faibles et les amenèrent à Jéricho, la ville des palmiers, auprès de leurs frères, et s'en retournèrent à Samarie. Je n'avais pas pensé lire ce passage-là, mais il est utile aussi. Déjà, Achaz, 20 ans, quand il commence à régner, son père a régné 16 ans. Donc il était enfant, petit, quand Ozias est mort. Il a vu le règne de son père. Il a dû entendre parler du règne de son grand-père. Il a vu son père marchant selon ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Il a vu aussi que le peuple se corrompait encore. Et il nous a dit, il ne fit pas ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Comme avait fait David, son père. Le renvoi est fait à David comme référence. Et pas à Jotham, pas à Ozias. La référence qu'on retrouvera, qu'on retrouve à travers ce livre des Chroniques, dans le livre des Rois, toujours de nouveau, c'est David. Marcher comme David ou marcher, pas marcher comme David. Et si on voit la liste de ce qui nous est donné, de ce qu'il a fait, on voit que non, il n'a pas marché comme David, bien au contraire. Il n'a pas marché comme Ozias, il n'a pas marché comme Jotham. Cela nous parle de ce choix, si on peut dire, je n'ai pas d'autre mot, mais le mot choix n'est au fond pas le bon, devant qui tout jeune se trouve. On a cette image des deux chemins qui est mentionnée dans le Deutéronome pour le peuple d'Israël, le chemin de la vie, le chemin de la mort. Chacun est confronté à un moment à décider quel chemin suivre. Marcher avec le Seigneur, je parle là pour des enfants, des jeunes qui ont des parents qui connaissent le Seigneur, qui, depuis leur plus jeune âge, ont entendu parler de lui, d'une manière ou d'une autre, qui ont une familiarité, en tout cas la possibilité d'une familiarité avec la parole. Il y a des choix, des décisions qui pèseront toute la vie. Notre exemple, je ne sais pas si on y arrivera, montre que Dieu use de grâce. Mais le bon chemin, c'est de commencer avec le Seigneur et de terminer avec lui. Là, Akaz ne commence pas avec le Seigneur, avec l'Éternel. Il commence avec des images de fonte pour les Baals, avec les sacrifices, les abominations des nations. Et Dieu le juge. Et c'est solennel de voir qu'à travers, d'une part, les Syriens, d'autre part, Israël, si on va voir dans le livre des rois qui était Pekak, fils de Remalia, le roi d'Israël de ce temps-là, mais même si d'une manière générale on regarde qui était le roi d'Israël, on voit dans les rois d'Israël aucun roi qui a marché avec l'Éternel. De chaque roi d'Israël, du royaume du Nord, des 10 tribus, il est dit qu'ils n'ont pas marché, d'une manière ou d'une autre, qu'ils n'ont pas marché avec l'Éternel. Et Dieu utilise les Syriens pour une première défaite, puis Israël dans une deuxième défaite pour parler à Akaz. Et la suite montre que Akaz n'a rien entendu. Et Dieu parlant par cela à Akaz, parle en même temps à Israël. Et on a ce passage paragraphe du verset 9 à 15 qui est très riche et qui nous montre que même dans ce peuple d'Israël idolâtre, il y a eu des hommes, des femmes qui ont craint l'Éternel et qui ont entendu la voix de l'Éternel et qui se sont laissés reprendre. Frappant, les mots sont très forts qui sont utilisés, verset 9, dans son verset, même il y a du verset, dans son courant contre ceux de Juda, l'Éternel, le Dieu de vos pères, les a livrés entre vos mains et vous les avez tués avec une rage qui est parvenue jusqu'aux cieux. Et c'est ce que dit le prophète. Mais on voit au verset 12 ces hommes dont les noms sont donnés qui se lèvent et qui parlent de leur culpabilité, qui reconnaissent leur culpabilité et qui veulent changer leur chemin. Il est possible de changer de chemin. Alors, si on va plus loin, à Akaz, on ne voit pas qu'il ait changé de chemin. battu par les Syriens, battu par Israël, se tourne vers la Syrie. Et il y a les Philistins, les Édomites, on passe plus loin. Versets 26-27, le reste des actes, de ces actes et toutes ces voix, les premières et les dernières, voici, ils sont écrits dans le livre des rois de Juda et d'Israël. Et Achaz s'endormit avec ses pères, et on l'enterra dans la ville, à Jérusalem, mais on ne le mit pas dans les sépulcres des rois d'Israël. Et Ézéchias, son fils, régna à sa place. Si je reviens juste au verset 25, qui est une conclusion de ce qu'a fait Achaz, dans chacune des villes de Juda, il fit des hauts lieux pour brûler de l'encens à d'autres dieux, et il provoqua à colère l'Éternel, le Dieu de ses pères. Et Ézéchias commença de régner étant âgé de 25 ans. Je m'arrête déjà juste à ce verset. Achaz a régné 16 ans. Ézéchias commence à régner à l'âge de 25 ans. Donc, il avait 9 ans quand Achaz a commencé à régner. Donc, il a connu son grand-père. Si on fait ce petit calcul juste pour... On met ça en mémoire, on y reviendrai. Je continue la suite. Le nom de sa mère était Abija, fils de Zacharie, le fils qui est droit aux yeux d'Éternel, selon tout ce qu'avait fait David son père. La première année de son règne, au premier mois, il ouvrit les portes de la maison d'Éternel et les répara. Et il fit venir les sacrificateurs et les lévites et les assembla sur la place orientale et leur dit « Écoutez-moi, lévites, maintenant, sanctifiez-vous et sanctifiez la maison d'Éternel, le Dieu de vos pères, et jetez la souillure hors du sanctuaire. Car nos pères ont été infidèles et ont fait ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel, notre Dieu, et l'ont abandonné et ont détourné leur face de la demeure de l'Éternel, et lui ont tourné le dos. Et même, ils ont fermé les portes du portique, et ont éteint les lampes, et n'ont pas fait fumer l'encens, et n'ont pas offert l'holocauste dans le lieu saint au Dieu d'Israël. » Jusque-là. La première année de son règne, au premier mois, il ouvrit les portes. C'est pas sorti de la manche. C'est pas venu comme ça, comme une idée subite. Qu'est-ce que je pourrais faire maintenant que je suis roi? Non. Si Ézéchias a agi de cette manière-là, c'est qu'il y avait quelque chose de réfléchi. C'est qu'il y avait quelque chose dans son cœur. S'il peut, tout de suite, premier mois de son règne, agir de cette manière, convoquer les Lévites, les reprendre, c'est qu'il y avait un chemin préparé dans son cœur, quelque chose qui remonte à loin. Et c'est un peu pour ça que je relève la différence, l'histoire de l'âge et de la durée du règne d'Achaz, et que je raccorde cela à Jotham. Avec un père comme il en a eu un, qui a fait ce qu'il a fait, où Ézéchias a-t-il appris à craindre l'Éternel et à désirer le servir? Il y a bien sûr, premièrement, le travail de Dieu dans un cœur. Mais la parole ne nous le précise pas, c'est qu'une supposition gratuite, non pas gratuite, mais c'est qu'une supposition qu'un Jotham, un grand-père, a pu lui passer un message, quelque chose qui a porté ses fruits. Et qui l'a amené à cet engagement de cœur et à l'action qui suit. En même temps, il dit là, aux Lévites, même ils ont fermé les portes du portique et ont éteint les lampes et n'ont pas fait fumer l'encens et n'ont pas offert l'holocauste dans le lieu saint au Dieu d'Israël. Où est la descendance de Azaria, le sacrificateur du temps d'Ozias? Où sont-ils passés, tous ceux, les fils de ces 80 hommes vaillants qui étaient avec lui et qui se sont opposés à Ozias? On n'a pas de réponse là-dessus. On constate simplement. La foi, la piété ne sont pas héréditaires. Chacun a à réapprendre, à réacheter pour lui-même ces choses. Chacun a à avoir cette vie, cette marche personnelle, je dirais même plus intime, avec le Seigneur pour tenir ferme, garder ces choses, quelles que soient les tempêtes. Mettons-nous à la place d'Ézéchias, entre l'âge de 9 ans et l'âge de 25 ans, pendant ses 16 ans de règne de son père. Qu'est-ce qu'il a dû en voir et en entendre? Et pourtant, dans cette ambiance-là, s'est formé ce cœur pieux, craignant Dieu, engagé pour agir pour lui. Alors, je ne vais pas m'arrêter plus sur le règne d'Ézéchias. Nous connaissons un peu, tous ces chapitres qui concernent la vie d'Ézéchias sont profitables à considérer. On a pas mal de leçons dedans. On a aussi cette leçon solennelle de sa maladie, et où là, la parole ne nous dit pas qu'est-ce qui a poussé Ézéchias à ce moment-là à supplier l'Éternel d'avoir cette guérison et ce prolongement de vie plutôt que d'accepter le choix, la décision de l'Éternel. On constate les choses, on constate qu'Éternel a répondu et lui a donné ce prolongement de vie. On constate aussi que dans cette deuxième partie de sa vie, s'il n'a pas été idolâtre, il a tout de même manqué, faibli. Et dans cette deuxième moitié de sa vie, on a eu son fils, Manassé, qui lui succédera, qui est né. Alors si on va au chapitre 33, où il nous est parlé de Manassé, Manassé était âgé de 12 ans lorsqu'il commença de régner, et il régna 55 ans à Jérusalem, et il fit ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel, selon les abominations des nations que l'Éternel avait dépossédées devant les fils d'Israël. Et il rebâtit les hauts lieux qu'Ézéchias, son père, avait démolis. Et il va des autels au Baal et fit des achères et se prosterna devant toute l'armée des cieux. Et il les servit et il bâtit des autels dans la maison d'Éternel, de laquelle l'Éternel avait dit « C'est dans Jérusalem que sera mon nom à toujours ». Il bâtit des autels à toute l'armée des cieux dans les deux parvis de la maison de l'Éternel, etc. Je ne lis pas la suite, c'est triste, c'est profondément triste. Un peu plus loin, verset 9, « Et Manassé fit errer Juda et les habitants de Jérusalem en les induisant à faire le mal plus que les nations que l'Éternel avait détruites devant les fils d'Israël. » Manassé n'a pas connu son grand-père. Il n'y avait pas besoin. Il suffisait de regarder autour, à l'extérieur d'Israël. Est-ce qu'Ézéchias a veillé encore comme il aurait fallu sur la fin de son règne? En tout cas, ce qui est solennel, c'est qu'il rebâtit les hauts lieux qu'Ézéchias, son père, avait démolis. La piété de l'un n'est pas quelque chose de gagné pour la génération suivante. Il nous est dit, les conducteurs, imiter leur foi. Mais cette foi, il faut se l'approprier et marcher dans cette foi personnellement, chacun pour lui-même. Mais alors, si on a vu la vie d'Ozias qui s'est terminée mal, il est extraordinaire de voir, après ce qu'on a lu et de ce qu'on n'a pas lu de Manassé, un règne de 55 ans avec cette description-là. C'est énorme pour un peuple. C'est presque deux générations. Des gens qui sont nés la première année du règne de Manassé ont pu ne rien connaître d'autre que le règne de Manassé. Et peut-être se poser la question, mais Éternel, tu nous as oubliés. Alors, verset 10, l'Éternel parla à Manassé, à son peuple, mais ils n'y firent pas attention. Et l'Éternel fit venir contre eux les chefs de l'armée du roi d'Assyrie. Ils prirent Manassé dans des ceps, le lièrent avec des chaînes d'airain et l'emmenèrent à Babylone. Et quand il fut dans la détresse, il implora l'Éternel, son Dieu, et s'humilia beaucoup devant le Dieu de ses pères, et le pria, et se laissa fléchir par lui, et écouta sa supplication, et le ramena à Jérusalem dans son royaume, et Manassé reconnut que c'est l'Éternel qui est Dieu. Dieu juge. Dieu met un fin à ce règne impie. Et Dieu lui parle. Et dans la détresse, c'est frappant comme il est dit, il implora l'Éternel son Dieu. Il y avait quelque chose, si on peut dire, qui n'était pas mort chez Manassé. Quelque part dans la détresse, il s'est souvenu qui est l'Éternel et son Dieu. Il s'est souvenu qu'il appartient, que lui, Manassé, appartient à l'Éternel. Et il nous est dit, il s'humilia beaucoup devant le Dieu de ses pères et le pria. Un retour complet sur lui-même. Une fin de règne qui est comme un espèce de rayon de soleil pour lui. Mais plus loin, il nous est dit que le peuple, je ne sais plus si je retrouve, toutefois, verset 17, on peut lire au verset 16 déjà, il mit en état l'autel d'Éternel, il sacrifia des sacrifices de prospérité et d'action de grâce, il commanda à Judas de servir l'Éternel, le Dieu d'Israël, toutefois le peuple sacrifiait encore sur les hauts lieux, mais seulement à l'Éternel, leur Dieu. Un petit retour pour le peuple, après un tellement mauvais exemple, une même tellement mauvaise direction, mais un retour complet pour Manassé lui-même. Un chemin qui commence tristement, lamentablement, avec des conséquences lourdes, mais Dieu use de grâce. Dieu répond à sa prière, à son humiliation, et le restaure, et lui permet encore ce petit bout à la fin de son règne où il peut le servir. Bien sûr, avec des limitations. Voilà un petit peu les enseignements dont nous avons besoin pour nous rappeler que, à la fois, la prospérité d'un moment n'est pas une garantie pour demain, mais qu'en même temps, la ruine d'un moment n'est pas une fatalité pour demain. Le fil conducteur de ces quelques généalogies qui se suivent, de ces quelques générations qui se suivent, c'est la relation individuelle de ces rois avec l'Éternel. Quelle a été leur relation avec Dieu? Comment ont-ils écouté? Comment ont-ils engagé leur cœur? Et cela pour chaque jour, pour un chemin de chaque jour. À la fois, veiller, nous rappeler toujours que nous n'avons pas de force en nous-mêmes. Seigneur, dis bien, Jean 15, séparez de moi, vous ne pouvez rien faire. Et puis, il y a le souci que nous pouvons avoir, à juste titre, pour ceux qui suivent. Et là, nous avons cette responsabilité de Timothée. Transmettre, garder pour transmettre. Garder pour ne pas manquer d'occasion de transmettre. Et ce que nous avons à transmettre, ce n'est pas des recettes, ce n'est pas des directives, c'est cette nécessité pour chacun d'avoir cette intimité, ce contact, cette relation avec Dieu, de puiser sa force en lui, de chercher la direction en lui, dans la parole, la chanter dans le cantique, quand tout croule ici-bas, cette parole demeure inébranlable. Que ce soit pour nous une assurance et en même temps cette ressource où nous allons chercher, puiser, en demandant au Seigneur qu'il nous ouvre les Écritures comme l'eunuque qui ne pouvait pas comprendre si personne ne l'aide. De la même manière, nous avons besoin qu'il nous ouvre lui-même la parole pour nourrir notre âme et pour nous guider dans la marche.